Bonjour à toutes et à tous. En ce jour du 14 octobre 2022, nous avons la joie de lancer la première émission / podcast de l'année de Radio Saussure. Je me présente, Damalie Yungo, en troisième année du Collège de Saussure, votre co-animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. À mes côtés, Madame Maillard. Le thème du jour portera sur l'école, où nous discuterons des divers sujets qui la concernent, que je ne citerai pas pour écourter mon introduction, et débuter notre conversation. Pour les personnes autour de la table ronde qui prendront la parole, je vous prierai de vous présenter brièvement, nom, prénom, et si vous êtes élève ou prof, évidemment uniquement lorsque vous prendrez la parole pour la première fois. Je vous rappelle également que nous ne sommes pas sur le plateau d'Infrarouge, mais bien au CEDAC de Saussure, donc s'il vous plaît, restez courtois et ne nous énervons pas.
Voilà, j'aimerais juste dans la foulée rappeler quelques règles. Donc il s'agit d'avoir une discussion ouverte entre élèves et enseignants, enseignantes autour de l'école. Donc il ne s'agit pas de critiquer ni des individus, ni des enseignements particuliers, ni de critiquer l'institution du Collège de Saussure. Et j'aimerais aussi rappeler que tout ce qui est dit n'engage pas le Collège de Saussure comme institution, mais relève de la responsabilité de chaque individu.
Voilà, nous avons tout dit. Nous pouvons commencer avec une première question, une question que tout étudiant et étudiante ont dû se poser un jour. Concrètement, à quoi ça sert l'école? Vous avez la parole. Qui veut commencer?
Lily. Je m'appelle Lily, je suis élève au Collège de Saussure. En deuxième, je pense que l'école sert à se construire un avis sur les choses autour de nous, sur la vie en général. Parce qu'on se retrouve avec des gens de notre âge ou des professeurs qui ont vécu, nous enseignent des choses. Et après, nous, on enseigne d'autres choses aux autres en grandissant.
Gabriel Haddad, élève en troisième année. L'école, pour moi, c'est un moyen de remplir sa culture générale, si on veut, cette culture générale qui nous permet donc de pouvoir répondre à des questions parfois qui paraissent innocentes ou qui paraissent tout simplement infimes, mais au final de pouvoir apporter quelque chose à un dialogue, à rapporter un dialogue grandissant en fait. C'est surtout ça, pouvoir discuter et discuter pour aller vers un point A d'un point B, enfin d'un point A jusqu'à un point B.
Alors Sacha Sprungli, élève en troisième année du Collège de Saussure, pour rebondir sur ta définition de l'école, donc pour enrichir les discussions et les développements qu'on pourrait avoir. Dans ce cas, on pourrait se demander pourquoi spécifiquement l'école et en quoi connaître la trigonométrie, ça pourrait aider à enrichir les discussions que tu pourrais te poser, non, les discussions que tu pourrais avoir ou les raisonnements que tu pourrais faire. C'est à ce moment-là aussi pourquoi on n'étudie pas la rhétorique ou ce genre de développement qui serait peut-être plus utile dans la forme, dans la construction de nos idées et dans l'art du débat, peut-être.
Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qui a déjà été dit?
Oui, donc, en effet, ce que tu soulèves est relativement intéressant, puisque c'est vrai que l'art de la rhétorique, c'est quelque chose qui devrait être enseigné peut-être en philosophie, mais les cours ne sont pas là forcément pour expliciter une manière de nous former pour une discussion ou quoi que ce soit. Ça nous permet d'avoir un cheminement de pensée, qui ensuite pourrait définir ça comme se paraphraser à d'autres situations, donc avoir un cheminement, une logique qui peut se rapporter à d'autres situations.
Alain a quelque chose à dire.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, je ne pense pas qu'on ait besoin de l'école pour justement avoir un cheminement, pour avoir une discussion ou une conversation. L'école n'est pas forcément nécessaire à acquérir des connaissances pour avoir un sujet de discussion intéressant. On peut tout à fait avoir des discussions sans avoir été à l'école en lisant des livres ou des revues ou tout ce que tu veux. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école pour acquérir des connaissances.
Oui, non, mais alors en effet, mais sauf que l'école nous pousse par exemple à lire. Il y a beaucoup d'élèves, alors je ne sais pas si ça arrive, donc vraiment, en fait on a un cursus, ça, on est relativement suivi, mais imaginons, on n'est pas suivi. À ce moment-là, rien ne te pousserait à lire, rien ne te pousserait à apprendre de toi-même. Alors oui, tu pourrais apprendre de ton côté en te disant, ça me permet de pouvoir enrichir des trucs. Ok. Mais rien ne te pousse à le faire. Donc en fait, ce que ça permet de faire, c'est qu'aux personnes qui n'ont pas forcément l'envie ou même la capacité par eux-mêmes d'apprendre, de lire, ça leur permet donc d'avoir une structure derrière qui leur permet d'apprendre, de lire, de se cultiver, etc.
Je crois que Lily a quelque chose à dire.
Je vais défendre un peu le point de vue de chacun là. Je pense que déjà je suis d'accord avec Alan sur le fait qu'on peut avoir une discussion sans forcément être allé à l'école, parce que y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne vont pas à l'école et je pense qu'ils ont une vie et qu'ils peuvent communiquer. Ensuite, je pense que, juste pour revenir sur l'arithmétique, comme exemple, je pense que chaque cours qu'on nous donne, que ce soit en primaire ou au collège, il y a un sens derrière. Ok, peut-être on ne va pas tous devenir mathématiciens, mais les mathématiques, ça permet de construire une certaine logique. Quand on comprend quelque chose en maths, le cerveau, il va vite. Vous êtes là, waouh ! S'il n'y avait pas les maths, peut-être que... Enfin, genre, si tu n'as pas les maths et tu te retrouves, je ne sais pas, avec 400 bons becs, et je ne sais pas, tu dois compter le nombre de bons becs, la personne qui n'aura pas fait de cours de maths ne saura pas comment aller vite, on va dire. Après, les choses qui ne sont pas forcément enseignées, je trouve que c'est soit parce qu'on n'a pas forcément le niveau, comme la rhétorique. Je pense que déjà, pour la rhétorique, il faut avoir un bon niveau de français, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Enfin, je pense d'abord qu'il faut construire tout ce qu'on sait sur les verbes, les sens derrière, genre ce qu'on fait en français. Enfin, d'abord, on apprend le premier sens, puis le deuxième. Quand on fait des dissertations et tout, ça va par étapes. Et après, certains à l'université, ils ont des cours de rhétorique, je crois, en droit, par exemple. Voilà.
Émilie Saris, du coup, élève en troisième année au Collège de Saussure. Je voulais aussi rebondir sur par rapport aux cours de français. Quand Gabriel, tu as parlé des livres et de la lecture. Alors, je prends l'exemple des cours de français, mais mon avis est assez subjectif. C'est que les gens n'ont pas forcément envie de lire, en fait. Je pense que ça dépend aussi de l'éducation et si les parents donnent envie de lire ou pas. En l'occurrence, si je prends mon avis et mon exemple à moi, j'aime beaucoup lire et surtout en dehors des cours, mais je croise parfois des gens qui n'ont pas du tout envie et qui ne font même pas l'effort de lire leur livre de français. Alors peut-être que l'école va essayer de les motiver ou au contraire va leur dire « bah non, j'aime pas la lecture, j'ai pas envie, je veux pas me donner ». Et peut-être que ça va pas leur donner envie de s'investir plus que ça. Aussi par rapport à avoir de la discussion, la culture générale. Je pense que ça relève aussi du caractère de chacun. Est-ce qu'on a envie de s'instruire? Est-ce qu'on est curieux? Est-ce qu'on a envie? Ou plutôt, est-ce qu'on a envie de se dire « Bof, je m'intéresse à ce que je veux, j'ai pas forcément envie, c'est pas nécessaire. » Mais je pense qu'aussi l'école devrait être là pour ça, de nous donner envie de valoriser la curiosité. Alors je pense qu'ils le font déjà, et peut-être que c'est maladroit si on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'ados qui le veulent. Mais je pense aussi que ça dépend de ce qui se passe chez nous et de notre volonté à le faire.
C'était par rapport aux lectures. Tu as dit que l'école le fait déjà. Alors, est-ce qu'elle le fait déjà? Je pense qu'elle essaye de le faire, mais qu'elle ne le fait pas. Enfin, de mon point de vue, elle ne le fait pas hyper bien. Si elle voulait le faire correctement, ce serait à nous de choisir les livres qu'on veut lire ou de faire des votes dans une classe, par exemple, pour choisir un livre commun pour lire en cours de français. Mais ce n'est pas le cas. On nous impose des lectures que des fois n'intéressent peut-être même pas la moitié de la classe. Je ne dis pas que c'est le cas. Enfin, peu importe la matière, on nous impose des lectures qui ne nous intéressent pas forcément et on ne nous demande même pas notre avis. Donc ça ne donne pas forcément envie d'aimer la lecture, si tu veux. Et des fois, pour des gens qui aiment ou qui commencent à aimer la lecture, ça les dégoûte. Enfin, ça peut arriver que la lecture dégoûte certains élèves à cause des lectures qu'on fait à l'école.
Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre directement à ce que vient de dire Alan ? Alors, Gabriel.
Oui, alors, en effet, on pourrait parler du fait du dégoût de la lecture, etc. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait voir si ça pourrait être rendre facultatif à ce moment-là ? La facultativité, que ce soit de la lecture, de certains cours, qui n'intéressent pas forcément certains élèves, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, ou parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement, ou parce qu'ils ont l'idée d'un autre cursus. Et par exemple, partir en droit, les mathématiques, ce n'est pas très utile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait trouver une idée de facultativité, ou est-ce que... Quel est le moyen?
Alors, à mon avis, une idée de facultativité ne marcherait pas dans le système actuel éducatif qu'on a. Parce qu'à mon avis, le système est justement fait pour nous classer après dans certaines branches. Enfin, si tu veux faire un certain travail, il te faut cette partie-là de l'école. Et puis tous les autres trucs, toi, tu n'en as pas forcément besoin, mais dans le système, c'est déjà obligatoire. Donc, tu es obligé de le faire. Bah, toutes les branches qu'on a actuellement. T'as pas forcément besoin, suivant ce que tu veux faire après, t'as pas forcément besoin des mathématiques, t'as pas forcément besoin de l'anglais, enfin de les langues si tu veux, mais ou de la physique ou de la bio. Et on te les impose quand même. Parce que le système, il marche comme ça. Il faut qu'on te classe pour avoir un travail plus tard.
Alors oui, c'est vrai, du coup, à ce moment-là, ça va un peu au-delà du système scolaire. C'est que dans le monde de l'emploi, actuellement, on est extrêmement attaché aux diplômes, les diplômes universitaires particulièrement. Donc, et pour aller à une université plus tard, on est obligé de faire le collège, qui n'est pas nécessairement ce qu'on a envie de faire, qui est un peu trop éclectique par rapport à ça. On aborde beaucoup de branches sans nécessairement avoir envie de toutes les étudier, et elles ont toutes une importance dans la moyenne, ce qui est un peu ce qui freine un peu les envies des gens. Parce que si on a envie d'être chimiste et qu'on va en chimie, mais qu'au final le français nous fait redoubler, c'est peu constructif. Donc à ce moment-là, ouais, ça, ce que tu as dit, Alan, c'est ça permet de nous classer, de faire des universités, de certaines études, le CG ou quoi. À ce moment-là, ça va, ouais, au-delà du système scolaire, ce serait réviser la vision qu'on a d'un futur employé qui doit forcément passer par une université pour avoir son diplôme.
Et peut-être que là, vous touchez un point intéressant, c'est le caractère généraliste de la formation au collège. Est-ce que ça devrait rester comme ça, ou alors est-ce que justement on devrait avoir des formations qui sont plus profilées, mais ça voudrait dire que finalement on forme déjà à ce stade pour la formation future ou l'emploi futur. Vous voulez réagir, Lydie ?
Je prends juste un exemple. On peut travailler dans l'architecture genre par deux voies différentes. La première serait passer par le CFPR directement après le cycle, mais on va pas forcément apprendre toutes les notions de mathématiques qu'on a au collège. La deuxième, c'est d'obtenir la maturité gymnasiale et par exemple passer par le PFL. Et c'est juste pour soulever quelque chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui passent par le collège, mais qui au final pourraient faire quelque chose à partir de l'apprentissage. Et je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu de la diabolisation de l'apprentissage. Genre les parents, des fois, même souvent à cause des cultures, genre les parents, ils veulent que leur enfant aille au collège, obtienne une maturité gymnasiale et après aille forcément à l'université. Alors que c'est pas forcément la chose qu'ils veulent faire. Et que beaucoup de personnes se retrouvent ici alors qu'en soi, leur premier choix, c'était par exemple le CFPT, l'école de culture générale, même l'école de commerce.
Je crois que Monsieur Alanis voulait réagir.
Je me posais juste une question en vous écoutant. J'ai l'impression que dans toutes vos remarques, il y a un présupposé. On sait lire. Et en vous écoutant, pour répondre à la question à quoi sert l'école, partons de l'hypothèse où il n'y a pas d'école. Qui c'est qui pourrait apprendre à lire ? Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à lire ? Et qui s'occuperait en fait de cette tâche ? C'est une question que je vous pose comme ça, parce que j'ai l'impression que pour vous, la lecture est un acquis, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Et est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde ?
La réponse de Gabriel.
C'est vrai que cette question peut se poser en effet. C'est vrai qu'il y a un présupposé de savoir lire. Est-ce que du coup la lecture ne serait pas apprise, enfin on n'apprendrait pas la lecture justement par le biais des plus anciens, pas forcément, je ne parle pas forcément de professeurs en tant que tels dans une institution scolaire, mais on pourrait avoir par exemple, on pourrait imaginer un corps professoral qui ne soit pas propre à une institution scolaire, mais qui soit au bon vouloir de, que ce soit des élèves ou des professeurs en soi, dans le sens où on pourrait imaginer dans un monde où l'école n'existe pas, des élèves qui iraient voir, je parle d'élèves en présupposant qu'il y a des professeurs, des élèves qui seraient intéressés par la lecture et qui iraient voir justement un professeur pour apprendre à lire, ou inversement, un professeur qui serait intéressé pour apprendre la lecture et qui irait voir des élèves pour leur apprendre.
Je passe la parole à Émilie.
Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit, monsieur Alanis, qu'on considère la lecture comme un acquis, pour moi et à mes yeux, la lecture, c'est extrêmement important. C'est ce qui forge la langue, la culture et l'orthographe. On ne se rend pas compte à quel point ça aide. Et si je prends mon exemple, dès que je peux, je suggère aux gens de lire. Et vraiment, lisez. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est important et ça vous apprend. Et si on part du principe qu'il n'y a pas d'école, je pense que malheureusement, c'est les classes sociales qui vont jouer. C'est que les élèves qui ont les moyens d'apprendre à lire et de le faire, eh bien, ils vont le faire, et toujours sur l'éducation. Est-ce que si on est moins avantagé financièrement, on va peut-être pas avantager la lecture? Et c'est le cas dans plusieurs pays où il y a des gens qui savent pas lire ou quoi que ce soit. Mais franchement, si vous avez l'occasion et que vous pouvez le faire, faites-le, parce que ça apprend plus que vous ne le pensez. Mais ça, c'est mon avis.
Monsieur Perrault voudrait ajouter quelque chose.
J'avais des remarques dans le prolongement de ce qu'a dit monsieur Alanis, mais d'abord juste vous dire que je suis enseignant, j'ai fait un doctorat, je déteste lire. Et j'ai toujours détesté lire. Et ça, je trouve assez intéressant, tu t'en doutais, je trouve assez intéressant parce que il y a des choses que vous avez rapportées tout à l'heure, là, que j'ai entendu, de dire par exemple que les diplômes étaient très importants. C'est faux. De plus en plus, le marché du travail se détache des diplômes. Les diplômes ont une valeur pour un engagement premier. Plus vous vous éloignez de votre formation, moins votre diplôme aura d'importance. Et y a quelque chose qui, moi, m'interroge sur... alors, ce qu'a dit M. Alanis, c'est vrai, finalement, à quoi sert l'école? On peut se poser la question pour la lecture, mais ça, c'est les âges premiers de l'école. Hein. Vous êtes dans une formation gymnasiale, finalement. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'école. On parle beaucoup d'école de vie comme une école de formation formidable, etc. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'école de vie? Et moi, je suis assez interrogatif, comme beaucoup d'adultes dans ce bâtiment, sur la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez comme modèle des gens qui, sur les réseaux sociaux, font des fortunes en montrant des photos, en s'exposant parfois, etc., où on a l'impression qu'ils ne travaillent pas. À côté de ça, vous avez des gens qui ont des doctorats et des machins, qui finissent en médecine, qui sont mal payés ou qui sont plus ou moins bien payés. Mais il y a des gens, il y a un prolétariat universitaire aujourd'hui qui n'existait pas avant. Donc on est dans une société qui est assez curieuse, qui valorise des professions nouvelles qui sont complètement déconnectées de l'école. Mais le modèle que vous avez en tête, c'est il faut avoir un diplôme pour avoir une réussite. C'est vrai, ça aide beaucoup. Mais moi, j'aurais plus envie de vous demander, finalement, pour vous, c'est quoi l'école? À quoi ça sert? C'est une bonne question, mais c'est quoi? Et cette école de vie, en dehors des études gymnasiales, qu'est-ce que pour vous, cette école de vie, ou finalement, quelle forme elle devrait avoir? Vous avez pris la forme de la lecture. Moi, je trouve ça très intéressant. Je déteste vraiment lire. Et pourtant, j'ai fait des études, passage obligé. Je peux avoir des plaisirs à lire des articles historiques, mais dans mes loisirs, je ne lis pas du tout.
Donc la question de M. Perrault, c'est quoi pour nous l'école? Et Lila voudrait répondre.
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lila, je suis en troisième année au Collège de Saussure. Et effectivement, en fait, c'est une question que je me posais depuis le début du débat. Du coup, ça rejoint un petit peu... c'est que pour l'instant, on a parlé surtout du coup des études académiques et c'est tourné vraiment vers l'intellectuel. Mais moi, vraiment, c'est une question que je me pose, c'est au final, quelle place, surtout au collège, prend l'école comparée à tout ce qu'il y a à côté? Et au final, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit aussi, par exemple, dans un entretien d'embauche, aujourd'hui, on demande le CV, évidemment, mais aussi beaucoup ce qu'on fait en dehors. Et je pense que c'est aussi ce qui forge et... Il y a évidemment la lecture et la culture, etc., les savoirs. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on doit aussi valoriser les expériences personnelles et sociales. Et du coup, c'est vrai que je me demande, on valorise la perfection et l'intelligence. Mais au final, est-ce que l'école, ce serait pas, ça ne devrait pas plus se tourner justement vers quelles sont nos valeurs, nos expériences qu'on veut faire dans la vie, etc.
C'était Lily, pardon.
Par rapport aux classes sociales, l'année dernière, j'étais en prépa d'art et il y avait des gens vraiment très, très, très doués. Mais certains venaient, par exemple, il y avait une fille particulièrement, elle était sans papier ni rien et elle parlait pas encore très bien français. On lui a aidé à faire son CV, sa lettre de motivation et tout, alors que d'elle-même, elle l'aurait pas fait. Enfin, genre, elle n'aurait pas pu le faire. Enfin, c'est juste, moi je trouve que pas tout le monde a forcément la, comment dire, il y a des gens qui ont le potentiel mais pas forcément comment dire, la possibilité d'exprimer, parce qu'ils sont pas forcément la lecture, enfin genre comment dire, pas la lecture mais la connaissance des lettres ou de la langue.
Alors pour revenir à ce que tu as dit Lila, bon je reviens un peu en arrière mais peut-être qu'on reprendra ce que tu as dit Lily. Pour ce qui est du collège, c'est vrai que ça a une vision assez importante dans la société du genre qu'on se dit ouais va au collège et pas ailleurs, on a une vision assez négative de l'ECG et de l'école de com. Et c'est vrai que quand les entrepreneurs cherchent des gens, c'est vrai qu'ils vont plus aller vers ceux qui ont des expériences, qui ont peut-être déjà travaillé plutôt que des diplômes et que des diplômes parce qu'en soi on a la théorie mais pas la pratique. Donc est-ce que en soi on devrait se dire, bon, ok, le collège c'est bien, mais peut-être mettre l'accent sur les apprentissages et le CG, pas en disant allez-y, allez-y, mais dans le sens où bah, c'est mieux aussi, c'est pas plus mauvais, c'est au même niveau. Dans le sens où est-ce que la théorie, de, on ne dit pas la laisser de côté, mais dans le sens où aussi favoriser la pratique, ou alors est-ce que le collège en général devrait changer sa méthode d'approche et aussi permettre aux élèves d'avoir de la pratique en plus de la théorie.
Alors, Gabriel, vous vouliez réagir hein?
Oui, alors en effet. C'est vrai qu'on a ce point de vue où bah, on se retrouve dans certaines catégories entre guillemets de classes, dans des écoles différentes, etc. Et puis c'est vrai qu'on a des manques, on se retrouve avec des manques, que ce soit l'exemple du CV ou que ce soit d'autres exemples. Alors est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait s'imaginer une école qui soit de base, comme on a l'école primaire par exemple qui nous instruit les bases du français, les bases des mathématiques, de l'allemand de l'anglais, etc. Est-ce qu'on pourrait alors s'imaginer une sorte d'école primaire qui nous permet donc d'apprendre les choses utiles pour la vie, c'est-à-dire rédiger un CV, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout au long de la scolarité. Il n'y a rien d'obligatoire, les profs ne sont pas obligés de nous apprendre à écrire un CV. En revanche, au cycle, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous a enseigné l'écriture de CV et de lettres de motivation. Il s'est avéré que ça a été utile justement en sortant du cycle pour la recherche de petits jobs ou d'autres jobs du style. Enfin, il y avait besoin des stages, par exemple. Il y avait besoin, en effet, de ces lettres de motivation et de ces CV. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait justement envisager cette école de base, cette école qu'on pourrait appeler une école fondamentale de vie sociétal.
Alors Lila,
Justement, en fait, encore une fois, Émilie, par exemple, tu as parlé de l'apprentissage, des stages, de l'ECG. Mais en fait, moi, je tournais plutôt le débat sur pas tellement ce qui va nous être utile en tant que formation. Parce que encore une fois, je trouve que du coup, ça retombe dans quelque chose de l'ordre du travail. Et je pense qu'on est vraiment tourné vers ça à notre époque, vraiment. Comment être le plus performant possible, etc. Et je trouve que l'école, c'est une valeur qu'elle prône beaucoup, être performant, avoir des bonnes notes. Et ma question, c'était beaucoup plus vraiment tournée vers le plaisir personnel, parce qu'au fond, quelque part, c'est un peu cliché de dire ça, mais on n'a qu'une vie, et si on passe notre vie à travailler et à toujours travailler en fonction de ce qu'on veut faire après et de se projeter dans le futur, finalement, on ne passe pas vraiment notre vie à la vivre, mais à se projeter dans le futur, et quelque part, en fin de vie, est-ce qu'on serait vraiment satisfait et voilà, et ma question, c'est vraiment, en fait, est-ce que l'école, elle ne prend pas un peu trop de place? Et est-ce qu'elle ne devrait pas laisser un peu plus de place, justement, au plaisir personnel, à la procrastination, pourquoi pas, à la non-performance?
D'accord. Alors, on a la question de la place de l'école dans la vie d'un individu. Est-ce que ça prend trop de place dans sa vie, puis ça n'en laisse pas assez pour autre chose. Et puis je crois que ce qui est revenu dans les discussions, c'est aussi le rapport entre l'école et la suite, c'est-à-dire école et le monde du travail. Vous aviez commencé tout au début par parler de culture générale. Donc là, on était assez loin d'une école finalement qui vous formerait pour votre vie professionnelle après. Alors, est-ce que vous voulez continuer sur un de ces deux thèmes,
Sacha ? Par rapport à ce que tu as dit justement sur la performance, que l'école s'y attache beaucoup, particulièrement au sujet des notes. C'est si on n'a pas la moyenne, on ne peut pas aller plus loin. C'est aussi, ne serait-ce que par rapport à l'apprentissage, c'est contre-productif en fait. Pas, même si ça ne donne pas de plaisir et dans la vie, ce sera peut-être regretté, mais ne serait-ce que dans le but premier de l'école, c'est d'apprendre des choses, mais le système de notation, il est sous-optimal, si je puis dire, parce que on apprend en faisant des erreurs et par le jeu aussi, notamment, alors que justement les erreurs sont sanctionnées en évaluation.
D'accord. Alors là, on est dans un problème. C'est un problème un peu plus précis. C'est la nature, enfin la façon dont vous êtes évalué. Peut-être qu'on peut revenir à une question un peu peut-être plus générale sur. Alors, il y a le temps passé à l'école, il y a le plaisir qu'on prend ou pas à l'école, et puis la question de savoir si. Mais est-ce qu'on ne peut prendre que du plaisir à l'école, fondamentalement? Noah, on vous a peu entendu. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole.
Alors bonjour, moi je m'appelle Noah et je suis aussi en troisième. Alors, pour répondre à ce que tu as dit, Sacha, est-ce qu'on n'aurait pas une école qui serait plus dirigée, élitiste? Ce qui veut dire qu'on est là que pour être le meilleur et que les personnes qui, par exemple, elles n'ont pas le même apprentissage, elles n'arrivent pas à apprendre pareil que, par exemple, certains profs enseignent, est-ce qu'elles seraient du coup sanctionnées parce qu'elles n'ont pas forcément compris, parce qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes que ce que le prof enseigne? Et donc, parce qu'elles ont moins bien compris ou que ce n'est pas leur manière d'apprendre, elles redoublent, elles partent de l'école, etc. Alors qu'elles ont peut-être les facultés, mais elles sont mal exprimées.
Pour les 5 minutes qui restent, on laisse encore parler Émilie et puis Lily et Gabriel, si vous faites rapidement.
Eh bien, pour revenir à ce système d'évaluation ou de notes, je reprends l'exemple quand on dit qu'on veut devenir, par exemple, chimiste et qu'on est très scientifique, mais que c'est la moyenne de français qui nous fait redoubler. Est-ce que peut-être dans ce cas, on devrait trouver un système où on trouve les points forts de chacun et on les exploite, dans le sens où si on est plus littéraire que scientifique, est-ce que l'école, justement, devrait donner la chance aux points forts et donc ne pas nous faire stresser pour nos points faibles? Et justement, peut-être, là, c'est un système de formation propre à chacun et peut-être mettre des filières, mais là encore, c'est compliqué, mais je pense en vrai qu'on devrait exploiter nos points forts et essayer de trouver, histoire qu'un élève qui ait vraiment le potentiel ne parte pas parce qu'il a échoué par quelque chose qui ne l'intéressait pas forcément.
Gabriel ou Lily
Je pense c'est aussi un certain manque de bien-être, hein, genre un peu lié au choix des cours, peut-être même à la quantité des cours. Bon, après, nous, on a la chance, je sais pas, parce qu'après, on a quand même tout le reste des cours, de pouvoir choisir une OS, etc. Mais est-ce qu'il serait pas mieux peut-être d'avoir moins de cours et genre pouvoir plus choisir ce qu'on veut faire, ou peut-être, je sais pas, avoir une demi-journée de cours qui sont obligatoires à tous, genre une branche commune, et après l'après-midi choisir nos cours, quelque chose comme ça, parce que certaines notes, enfin le fait de redoubler, ça empiète beaucoup sur aussi le mental. Les gens, ils perdent un peu la confiance, ils ont pas forcément envie d'aller à l'école, ils font peut-être même de la phobie scolaire, ils veulent plus pas venir parce qu'ils arrivent pas à, entre guillemets, réussir. Alors que peut-être ils excellent pas forcément dans les matières scolaires, et plus tard, ou en changeant de système d'éducation, enfin genre en allant par exemple à l'ECG, ils vont plus fleurir, enfin genre ils vont peut-être trouver leur force autre part.
Voilà. Alors pour conclure, Gabriel, est-ce que tu serais d'accord de nous parler encore de, juste pour terminer, sur à quoi sert l'école, pour revenir en fait à la question du début?
Alors, l'école a plusieurs utilités, dont notamment nous enseigner les bases fondamentales pour l'avenir professionnel. Mais on a pu remarquer qu'en effet, il y a des problèmes au niveau du système scolaire en général. C'est-à-dire que les méthodes d'apprentissage, enfin pas les méthodes personnelles, mais les méthodes générales d'apprentissage ne sont pas forcément adaptées à une vie professionnelle. Pourtant, on a remarqué jusqu'à présent que l'école a toujours pu apporter de quoi s'intéresser à une vie professionnelle un peu plus précise. C'est-à-dire qu'on développe des centres d'intérêt pour justement une vie professionnelle.
Très bien, merci à tous. Nous arrivons à la fin de ce débat. Je vous remercie tous. Voilà.